Bonjour à tous, bienvenue sur Retro en Air, l'émission Made in Retro. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Je ne vais pas parler d'un fait d'actualité qui est surmédiatisé comme l'apparition du variant Omicron, mais c'est autre chose. Il s'agit notamment d'un interview assez particulier. Ce n'est pas celui du président de la République, ni l'un des candidats aux élections de 2022, mais c'est surtout celui de Cédric Villani. Caroline, ici présent, s'est donc chargée de lui poser des questions sur l'enseignement des mathématiques dans les écoles, collèges et lycées. Pour commencer, qui est Cédric Villani ? C'est un mathématicien et député né en 1973. Il a notamment publié ses travaux sur la physique statique comme les équations de Boltzmann ou encore l'amortissement de Landau sur l'optimisation comme le problème du transport optimal de Monge, mais également sur la géométrie riemannienne comme la théorie synthétique de la courbure de Ricci. Grâce à ses travaux, il fut donc récompensé du prix Henri Poincaré en 2009. Il a été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite la même année. Il a aussi reçu la médaille Fields en 2010, l'une des plus prestigieuses récompenses mathématiques. Et enfin, en 2011, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. Caroline, c'est toi qui étais chargée de l'interview de Cédric Villani. Peux-tu nous expliquer le pourquoi du comment de tes questions ?
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En effet, nous avons eu le plaisir d'interviewer Monsieur Villani. Ayant une grande passion pour les mathématiques, il était évident pour moi de m'adresser à lui concernant cette matière. Alors, pourquoi principalement l'enseignement ? Tout simplement car je vis les changements des programmes et réformes ces dernières années, et de nombreuses questions me sont venues au fil du temps. De plus, M. Villani avait publié un rapport sur l'enseignement des mathématiques en 2018, et je trouvais cela intéressant d'en parler avec lui.
Très bien, maintenant écoutons M. Cédric Villani.
D'après les études PISA, le niveau en mathématiques semble avoir baissé. Êtes-vous d'accord avec cette étude ?
Oui, je suis d'accord avec l'étude et je n'ai pas de raison de remettre en cause le protocole PISA. En mathématiques, on préfère le protocole TIMSS à PISA d'habitude, mais TIMSS montre aussi un niveau qui baisse en France par rapport aux autres pays de façon continue et stable, une baisse stable depuis une trentaine d'années.
Et quelles sont, selon vous, les raisons de cette baisse ?
Parmi les raisons, il y a certainement le fait que nos enseignants au niveau de l'école primaire manquent de formation, manquent d'accompagnement, manquent de moyens pour mener à bien leur mission. Selon moi, selon les résultats, selon les conclusions du rapport que j'ai, de la mission que j'ai menée avec Charles Torossian et rendue en 2018, c'est l'urgence la plus grande. Après, il y a de façon globale, c'est de façon globale le signe d'un système éducatif qui a des soucis, qui s'est retrouvé miné par la défiance, par le manque de considération accordée aux enseignants, par les interrogations sur le but et les moyens de l'éducation. Bref, mathématiques, c'est un peu un révélateur, si vous voulez, d'un malaise général.
Et comment est-ce qu'on pourrait redorer l'image des mathématiques globalement pour la plupart des gens qui pensent que les mathématiques, c'est du charabia, que ce n'est pas utile dans la vie quotidienne ?
Ce n'est pas l'utilité la question. En tout cas, c'est une question, mais ce n'est pas la question majeure. Quand vous regardez les disciplines qui attirent, les disciplines qu'on aime, ce n'est pas du tout forcément les disciplines utiles. De toute façon, si vous gardez que ce qui est directement utile à l'école, il ne restera pas grand-chose. Comme on sait bien, l'essentiel des buts à l'école, c'est de développer vos facultés de réflexion, de culture sur l'ensemble des sujets, d'interaction, de façon d'interagir avec la connaissance et l'inconnu. Et c'est bien en cela que mathématiques est d'ailleurs une des composantes fondamentales de cette éducation. En revanche, l'implication, la façon d'arriver à transmettre de l'intérêt ou de la passion pour la discipline est le cœur du sujet.
Dans votre rapport de 2018, une de vos mesures m'a interpellée, c'est celle proposant le module de réconciliation avec les mathématiques au lycée. Malheureusement, cette mesure n'a pas été appliquée, ou du moins je ne l'ai pas remarquée. Et comment envisagez-vous ce module ?
Il s'agit d'un module dans lequel, disons, on y met le paquet pour autour de sujets mathématiques, prendre plus de temps, prendre la façon de donner tant et plus de contexte. Vous savez, combien j'en ai vu des gens qui venaient à la fin d'une de mes conférences où je parlais de mathématiques et où je parlais de plein d'autres choses, parce que mathématiques, c'est intégré à la culture, c'est intégré à l'histoire, c'est intégré à toutes les autres sciences. Combien il y en a qui sont venus me voir à la fin de la conférence en me disant « quel dommage qu'on ne m'ait pas expliqué tout ça ». Si quelqu'un fait un blocage sur une opération mathématique, je ne sais pas moi, la comparaison de fractions, vous pouvez, face au blocage, passer tout votre temps à essayer de débloquer et ça peut coincer. Vous pouvez tenter de le replacer dans le contexte ou faire des détours historiques, faire des mises en contexte, et jusqu'à ce que le dépic, ou au moins la motivation, puisse être là. Et puis, vous pouvez prendre votre temps à chercher des images, des paraboles, des illustrations et tout ce que vous voulez. En bref, dans de la réconciliation, il s'agit de trouver la bonne voie, soit avec plus de contexte, en prenant plus de temps, pour obtenir pour aller au-delà de ce sentiment de frustration et de rejet qu'on peut avoir souvent. C'est une erreur, je pense, que de vouloir rassurer les gens en leur disant « mathématiques, c'est facile ». Ce n'est pas vrai. Mathématiques, c'est difficile. Les concepts qu'on apprend aujourd'hui au collège, voire à l'école, il a fallu des siècles à l'humanité pour les dégager. Et des choses aussi simples que l'utilisation d'un zéro pour dénoter une quantité qui n'est rien, ou les multiplications, les additions de fractions, ou les fonctions simples, les exponentielles, ou leur réciproque, les logarithmes. Tout ça, ça a mis des siècles, voire des millénaires à se dégager. Il ne faut surtout pas croire que c'est facile. Il faut parfois prendre tout le temps pour y arriver. On sait que l'un des ouvrages pédagogiques mathématiques les plus célèbres du XXe siècle, l'ouvrage de Rosa Peter, « Jeux avec l'infini », a été suscité quand l'autrice, hein, qui était une mathématicienne professionnelle, une chercheuse, une enseignante, s'est rendue compte de la grande difficulté à enseigner des concepts mathématiques à certains de ses amis qui étaient réfractaires, y compris des gens cultivés, instruits et d'une grande intelligence, et à travailler sur la mise en récit avec des allusions, des citations, des mises en perspective, des mises en contexte, d'analogies et toutes sortes, de façon à faire un ouvrage qui soit à la fois une sorte de guide sur les concepts mathématiques depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, en gros, sans être exhaustif, mais en allant crescendo dans la lignée des concepts, tout en se présentant comme une longue histoire.
Et que pensez-vous de l'utilisation de la calculatrice pour les plus jeunes, au primaire, collège, par exemple ?
Pour moi, ça ne devrait pas être ça devrait pas vraiment être un sujet. Il y a des activités qu'on fait sans calculatrice, ce sont des activités de calcul, qu'on fait calcul mental ou calcul posé, calcul écrit, pour s'entraîner, pour se concentrer, pour passer du temps à se concentrer sur un but, qualité ô combien importante par les temps qui courent, qui sont des temps de désorganisation et de déconcentration. Et il y a d'autres activités dans lesquelles la calculatrice ne devrait pas poser de problème. Et bien sûr, les mathématiciens en général détestent être assimilés à des calculateurs, méprisent le calcul souvent, et vous trouvez des profils qui sont normaliens alors qu'ils ne connaissent pas leur table de multiplication. Ça existe. Vous trouvez des mathématiciens célèbres qui font des fautes de calcul aux débutants. Ça existe aussi. Je ne vous dis pas que c'est fréquent, mais ça existe. Cependant, il ne faut pas non plus mépriser le calcul parce que c'est, comme je disais, une bonne façon de comprendre la mécanique sans s'entraîner, se concentrer. Ça développe des qualités fort intéressantes. Le fait de faire un petit peu de calcul régulièrement est une activité qui est assez vertueuse. C'est pour ça que nous le recommandions dans le rapport avec Charles Torossian. Et donc, des activités avec calculatrice, des activités sans calculatrice, c'est quelque chose qu'on doit, c'est un équilibre, un partage qu'on devrait arriver à trouver sans guère de difficultés.
Que peut-on faire après une spécialité mathématique ? Parce que maintenant, dans l'enseignement, à partir de la première, il n'y a plus les mathématiques au tronc commun. Il faut prendre la spécialité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après cette spécialité ?
Premièrement, je regrette, je pense que c'était une erreur rétrospectivement, je regrette que les réformes aient été prises par les deux bouts, à la fois la réforme de l'école primaire, qui est celle sur laquelle Charles Torossian et moi-même insistions le plus, en disant qu'il faut d'urgence renouveler la formation, revoir les processus et l'apprentissage à la primaire, qui est la clé de tout. Hein. Si le primaire ne marche pas, le collège ne marchera pas. Si le collège ne marche pas, le lycée ne marchera pas. Et le fait d'avoir pris la réforme du système par les deux bouts a conduit à une grande confusion. C'est ce qu'on voit. Deuxièmement, la réforme du baccalauréat, elle est compliquée. Le système n'est pas aussi souple que ce que le rapport Mathieu nous avait proposé. Il s'était proposé 3 options, il n'y en a plus que 2. Des possibilités de changer tous les semestres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a eu comme ça un certain nombre de pertes de souplesse. Je regrette aussi toute la grande confusion qu'il y a eu au niveau de l'école, du programme, pardon, de sciences intégrées. Le programme général de sciences avec le cours intégré, c'était pas une idée à moi, ni une idée qui était proposée dans le rapport Torossian, mais c'est une idée qui m'a paru dès le début intéressante et avec un très grand potentiel. Avoir des sciences en interaction, un cours dans lequel un lycéen puisse comprendre la façon dont les sciences se répondent les unes les autres, la façon dont la mathématique, c'est pas juste une discipline détachée du reste, mais c'est quelque chose qui se nourrit de la physique, de la chimie, et qui interagit avec, et de l'informatique bien sûr. C'est tout à fait l'esprit de mes conférences de mathématiques pour grand public, et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Maintenant, j'étais favorable à sa mise en œuvre. Maintenant, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que ça ne fonctionne pas globalement. Ça ne fonctionne pas en particulier parce que les horaires sont trop réduits, parce que les enseignants n'ont pas la possibilité de faire le travail de préparation interdisciplinaire les uns avec les autres, indispensable à ce que le cours soit une réussite. Et donc ça veut dire qu'il leur faut plus de temps pour ce cours, il faut dégager du temps pour la préparation et il faut à toute force sortir du système actuel dans lequel les enseignants font leurs cours les uns les autres de façon en silo sur ce temps d'enseignement qui vide complètement l'enseignement de sciences intégrées de son sens. À partir du moment où l'enseignement mathématique intégré aux sciences aurait un sens, là, on peut imaginer, ça répondrait à cette critique actuelle de l'enseignement mathématique qui est abandonné, pour ceux qui ne prennent pas l'option mathématique en première. Je ne suis pas choqué par l'idée qui est, en première, un choix net entre ceux qui veulent approfondir les sciences mathématiques pour de bonnes raisons, réellement pour approfondir en sciences et pas juste pour se retrouver dans une bonne formation. Il faudra encore beaucoup d'étapes avant que ça ait du sens. Ça aura du sens aussi, en particulier, si la jonction est bien faite entre le secondaire et le supérieur, avec un supérieur qui dise précisément quelles sont les options sur lesquelles il recrute, quels sont les préliminaires. Pour l'instant, ce lien n'est pas bien fait.
Et utilisez-vous fréquemment l'informatique dans votre travail de chercheur ?
S'il s'agit d'algorithmique, pas vraiment. Encore que la démonstration de beaucoup de mathématiciens au XXIe siècle ressemble beaucoup plus à des algorithmes qui sont beaucoup plus constructifs que les démonstrations du XXe siècle, avec l'influence de l'algorithmique. En revanche, les chercheurs utilisent sans arrêt des logiciels d'échange d'informations, d'écriture de textes mathématiques, avec même le célèbre logiciel TeX et son complément LaTeX, qui sont en fait des langages de programmation pour écrire des formules mathématiques avec toute la portabilité et l'universalité qu'il faut. Et puis, de façon générale, bien sûr, il y a eu la révolution informatique aussi dans le cadre, enfin la révolution numérique aussi dans le cadre des sciences mathématiques, avec les articles qui sont devenus par défaut des articles sous forme électronique, les bases de données qui sont devenues des articles sous forme électronique et qui ont remplacé les articles papier, les bibliothèques dans lesquelles on allait fouiller et chercher des articles encore quand j'étais en début de thèse. Avec les courriers électroniques, voire les échanges par WhatsApp ou autre, ou SMS ou autre, qui ont remplacé les lettres ou les fax qu'on échangeait encore quand j'étais en début de thèse. Donc la révolution numérique a changé, transformé les habitudes aussi. Les transparents écrits à la main sur des feuilles transparentes ont disparu, remplacés par les exposés sur ordinateur. C'était encore une rareté quand j'ai commencé ma thèse, c'est devenu la norme. Donc tout ça a fait son chemin. N'empêche que ça n'a pas changé fondamentalement le métier de mathématicien, la communication de mathématicien, la façon de penser, de raisonner, de travailler des mathématiciennes et des mathématiciens. il arrive que certains résultats de programmes informatiques, certains résultats de simulations techniques influent sur les conjectures qu'on peut se faire, les questions qu'on peut se poser en mathématiques, bien sûr. Ça m'est arrivé plus d'une fois de changer d'avis sur une question mathématique après avoir vu des résultats de programmes informatiques, des résultats de simulation. Et on a vu aussi se développer certaines preuves mathématiques augmentées, des preuves assistées par ordinateur, avec certains cas célèbres, le théorème des quatre couleurs, démontré une première fois avec une grosse partie informatique en 1976, si je ne dis pas de bêtises, redémontré dans les années 2000 avec plus de rigueur. On a vu aussi des théorèmes célèbres tels que le théorème d'empilement des sphères ou encore d'autres théorèmes qui se sont retrouvés démontrés avec une grosse assistance informatique, posant d'ailleurs des problèmes sur la nature même mathématique, des problèmes épistémologiques aux scientifiques. Et puis les domaines entiers tels que l'intelligence artificielle sont un mélange de mathématiques, d'algorithmiques, d'informatique, étant entendu que mathématiques et algorithmiques, c'est des disciplines sœurs. En mathématiques, vous posez la question « qu'est-ce qui est vrai ? Quels sont les objets qui répondent à ma question ? Est-ce qu'il existe un objet qui répond à ma question ?» En informatique, vous posez la question « comment est-ce que je calcule cet objet ?» Et ça, cette complémentarité entre la preuve mathématique et l'algorithme, elle est là dans son essence depuis plusieurs millénaires.
Comment envisagez-vous l'enseignement des mathématiques dans 10 ans ou 20 ans ?
J'ai pas de raison de penser qu'il aura beaucoup changé par rapport à ce qu'il y a maintenant. La pratique pédagogique n'a pas tellement été bouleversée par l'informatique. Il y a eu quelques outils qui se sont imposés. Je pense à GeoGebra dans l'enseignement de la géométrie qui a changé la donne. Je pense aux enseignements numériques de travail qui ont permis de faire évoluer les interfaces, les échanges entre l'enseignant et les élèves. Mais à part ces exemples, globalement l'enseignement dans une classe, ça reste un enseignant, une enseignante face à ses élèves en train d'expliquer, de faire passer qu'il a compris ce qu'elle a compris de la discipline et quelles sont les bonnes images pour susciter les déblocages dans le cerveau des jeunes. Et je ne vois pas vraiment de raison de penser que ce modèle va fondamentalement changer. Les tentatives qu'il y a eu ces dernières années pour mettre en place des cours complètement à distance, des cours en ligne, n'ont pas révolutionné le domaine. En revanche, ce qui, je pense, changera d'ici 10 ou 20 ans, et ce qui, j'espère, aura changé de façon importante, c'est la façon dont seront formés les enseignants, c'est la façon dont travailleront les équipes pédagogiques, dont on saura faire dialoguer les disciplines les unes entre les autres, quelque chose sur quoi, pour l'instant, nous sommes collectivement mauvais. Et donc, je compte beaucoup plus sur de l'innovation en matière humaine qu'en matière technologique.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût personnellement pour les mathématiques ?
Je suis très mauvais pour répondre à cette question parce que j'ai toujours aimé ça. Donc je ne peux pas vous dire, je ne me souviens pas d'une époque où ça ne m'intéressait pas et où je ne trouvais pas ça intéressant, divertissant, passionnant de rechercher, de classer, de chercher le raisonnement, etc. Maintenant, il y a eu des étapes par rapport à tout ça. Il y a eu des rencontres marquantes. Je peux citer pêle-mêle le moment où j'ai appris que c'était qu'une démonstration, c'était en classe de quatrième et où j'ai bien senti que c'était un cap et que que ça changeait la donne. Et de fait, pendant les 15 années qui ont suivi, peut-être, j'exagère un petit peu, mais à peine, oui, pendant les 12 ou 15 années qui ont suivi, chaque année, j'ai appris à faire la démonstration plus difficile que la précédente. On pourrait résumer mon éducation mathématique et ça. Je pourrais citer mes enseignants particulièrement passionnés de mathématiques en troisième et en seconde. L'un comme l'autre, très mauvais pour appliquer le programme d'ailleurs, ils faisaient du hors-piste, mais ils étaient vraiment passionnés. Je peux citer mon arrivée en classe préparatoire qui a été un vrai choc dans le bon sens du terme pour moi. Je peux citer, comme tout le monde, ma thèse. La thèse, c'est le moment où vous découvrez ce que c'est que la recherche. Ce n'est pas juste un diplôme, c'est un compagnonnage, c'est la plongée dans le bain, c'est de l'apprentissage. Je peux citer les rencontres avec mes collaborateurs importants au niveau de la recherche, des gens comme Giuseppe Toscani, Clément Moreau, Laurent Desvillette, Eric Carlen ou d'autres, Félix Otto, où à chaque fois, ça a été John Lott, ça a été une personne rencontrée quelque part dans un colloque, dans une université, dans un centre de recherche, qui a été l'objet de développements mathématiques inattendus et qui ont contribué à changer ma vie.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez obtenu votre médaille Field?
Il faut comprendre comment ça se passe. Vous êtes prévenu 6 mois à l'avance, sous embargo total, hein, vous n'avez pas le droit d'en parler, en pratique, je ne l'ai même pas annoncé à ma famille, hein, seulement à ma compagne. Vous avez 6 mois pour vous préparer psychologiquement, parce qu'il y a une pression énorme, vous avez le syndrome de l'imposteur, vous demandez est-ce que je mérite vraiment ça, vous avez des gens qui vont vous porter au nu, d'autres qui vont dire dans votre dos que vous ne méritiez pas, etc., etc. Mais en tout cas, vous ressentez cette pression extraordinaire et vous avez du temps pour vous préparer. Vous ressentez une immense fierté, vous pensez à tous les efforts par lesquels vous êtes passé pour le faire, parce que personne n'obtient la médaille Fields facilement, ça n'existe pas. Vous pensez aussi à vos collaborateurs, vous pensez aussi à tout ce qu'il va y avoir comme pression pour la suite. Je me souviens de cette nuit, la veille de la cérémonie c'était le 19 août 2010, et pendant la nuit qui a précédé, toute cette nuit que j'ai passée à rêver de moi comme petite particule portée par le courant, dérivant et dérivant dans les océans, une sorte de métaphore de ce qui allait m'arriver dans le grand bain.
Et que diriez-vous à un élève qui n'aime pas les mathématiques?
D'abord, je dirais que ça arrive à des gens très bien et qu'on n'est pas obligé de tout aimer. Et qu'ensuite, y a plein de façons d'aborder la mathématique, de la même façon qu'il y a plein de façons d'aborder la physique. Moi, je n'aimais pas particulièrement la physique quand j'étais en lycée ou en classe préparatoire. Et pourtant, je me suis retrouvé plus tard à faire de la physique mathématique et même à être la première personne formée en France à recevoir les prix internationaux les plus importants, le prix Henri Poincaré de l'Union internationale de physique mathématique, simplement parce que à travers la mathématique, j'avais trouvé la bonne façon par laquelle je pouvais appréhender la physique et par laquelle je pouvais trouver ça passionnant. C'est pareil en mathématiques. Il y en a qui ont besoin de passer par le prisme du calcul, d'autres par le prisme conceptuel, d'autres par le prisme de l'histoire, certains par le prisme d'application, ou que sais-je. Il y a plein de façons de se retrouver motivé. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je vois le nombre de personnes qui viennent me dire à la fin d'une conférence « quel dommage que je n'ai pas su ça avant, je me serais certainement davantage intéressé au cours de maths », je vois bien qu'il y a un énorme potentiel à attirer plus de monde avec la mathématique, à aller réconcilier, pour employer le mot que nous utilisions tout à l'heure, pour ce fameux module.
Merci beaucoup, Monsieur Villani, pour cette interview très intéressante.
Je vous remercie beaucoup. Je terminerai en rappelant que les enseignants, c'est peut-être le métier le plus important de toute la société, ceux qui préparent l'avenir et ceux sur lesquels on doit construire et bâtir. La revalorisation du métier d'enseignant en tous les sens, une revalorisation matérielle autant que immatérielle, ça fait partie des grands chantiers prioritaires de notre société. Nous en sommes encore loin et j'espère qu'il y aura des occasions dans l'avenir pour travailler sur ce chantier. Merci à vous et bon courage pour tout ce que vous faites.
Eh bien, merci beaucoup Caroline pour cette interview de qualité et un énorme merci à Cédric Villani pour avoir accepté de répondre à tes questions et pour ses réponses toujours aussi riches et instructives. Chers auditeurs, cet épisode spécial de Rotran en air est à présent terminé. On se retrouve pour une prochaine émission. Your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing?
you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, fiending an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it.
Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to take. Well, actually show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass.
What's it done?
And with the straightest face, I be like,
hell yeah.
I slip
yes,
them the digits of Papa Prince Paul, so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
Party at the Doggone on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the tech cloud. But addition of fear, brother mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in. And I be like, yo, G-Pasta's all a producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I do this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem.
Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please don't press rewind. Cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. Peace, peace.
How you doing? So-
sorry you can't get through. Why don't you leave?